Il est 12h30 sur France Culture. Les informations vous sont présentées par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le face-à-face gouvernement-CGT dans le conflit des raffineries. La grève touche toutes les raffineries selon la CGT. 20% des stations-service en difficulté d'approvisionnement. On fait le point dans un instant avec Annabelle Grelier. Sur France Culture ce matin, François Hollande juge indispensable le travail de la recherche. Hier, 7 prix Nobel français qualifiaient la décision du gouvernement d'annuler certains crédits de suicide scientifique et industriel. Suivi de cette polémique avec Catherine Pétillon. François Hollande, invité ce matin de France Culture, la fabrique de l'histoire, le chef de l'État a contextualisé son action politique, compte rendu de cet entretien avec Emmanuel Laurentin, compte rendu de Frédéric Seyss. 6 mois après les attentats de Paris, les proches des victimes sont reçus à partir d'aujourd'hui par les juges chargés de l'enquête, explication d'Hélène Terzian. Et puis Manuel Valls rencontrait ce matin à Ramallah son homologue palestinien, selon qui la proposition de Benjamin Netanyahou d'organiser une négociation bilatérale visait simplement à gagner du temps, compte rendu des Étienne Monin. Nous parlerons de l'initiative française pour le Proche-Orient avec l'invité de la séquence interview, Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, dans la dernière partie, Caroline.
Nous recevrons le sociologue et philosophe Didier Héribon pour nous demander avec lui et à partir de son nouvel ouvrage, à quelles conditions on peut penser une véritable théorie critique.
On commence donc par ce face-à-face, gouvernement, CGT, dans le conflit des raffineries, les accès aux dépôts pétroliers et à la raffinerie ExxonMobil de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, qui était bloquée par les militants de la CGT depuis dimanche soir, ont été dégagés ce matin par les forces de l'ordre. Selon le secrétaire de la CGT des Bouches-du-Rhône, les gardes mobiles sont arrivés au milieu de la nuit vers 4h30. On fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogène pour faire partir les militants. Alors que la CGT affirme que maintenant les 8 raffineries françaises sont en grève, Manuel Valls déclare que d'autres dépôts vont être débloqués dans la journée peut-être demain. Le Premier ministre ce matin, puis réaction d'Olivier Matteu de la CGT.
Cette dérive de la CGT, ce jusqu'au boutisme visant à obliger le gouvernement à retirer cette loi, ce qui n'arrivera pas, m'inquiète et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des dirigeants de la CGT. Nous n'accepterons pas ce chantage et les sites seront débloqués. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait évidemment pas de pénurie pour les usagers comme pour les entreprises.
Mais les raffineries, il n'y a pas besoin de les bloquer. Les raffineries, elles se mettent à l'arrêt. Donc partant de là, j'espère qu'ils ne vont pas non plus remettre en cause le droit de grève. On a le droit de faire grève, d'arrêter le travail dans ce pays. Ou alors qu'ils installent carrément la loi martiale et puis alors à ce moment-là, on verra comment on prend les choses. Mais je pense que les salariés dans ce pays ne sont pas enclins à se laisser faire. Et je vous le dis, il y a des professions qui aujourd'hui n'étaient pas en grève, qui depuis ce matin le sont. Donc que le gouvernement l'entende, qu'il arrête de s'entêter. Et encore une fois, je le dis, il n'y a pas de déshonneur à dire on s'est trompé et on revient sur ce texte.
Voilà, donc selon la CGT, la grève toucherait maintenant toutes les raffineries et 20% environ des stations-service connaîtraient des difficultés d'approvisionnement. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Situation assez mouvante, comment est-ce qu'elle évolue sur le terrain ?
La grève est désormais votée, vous l'avez dit, dans les 8 raffineries françaises. En tout cas, c'est ce que déclarait ce matin le secrétaire fédéral du secteur pétrole de la CGT. Des grèves votées en réaction à la charge des forces de l'ordre à Fos-sur-Mer, assure-t-il. Le mouvement de grève lancé ce matin par la CGT, force ouvrière à la raffinerie d'ExxonMobil de Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime ne semble pour l'heure pas perturber le fonctionnement du deuxième site français. Selon la direction, la circulation des camions qui vont alimenter les stations-service est facilitée par la présence des forces de l'ordre devant le dépôt de carburant de la raffinerie et sur les différents ronds-points routiers qui en commandent l'accès. La CGT reste confiante sur l'évolution du mouvement. Les personnels de production sont en 3-8. De nouvelles équipes donc et de nouvelles consultations vont avoir lieu dans la journée à chaque nouvelle équipe de travail. La CGT lance donc toutes ses forces dans la bataille. La CGT qui compte sur une diminution des stocks, car la raffinerie risque de ne plus être alimentée en brut. En effet, autre menace sur l'approvisionnement en carburant, le personnel des terminaux pétroliers du Havre, qui assure 40% des importations françaises, a voté la grève. Elle prendra effet cet après-midi. La raffinerie Total, la plus grosse de France, est déjà à l'arrêt à Gonfreville-Lorcher, sur la zone portuaire du Havre. Les agents du grand port maritime de Marseille et de sa filiale spécialisée dans le pétrole Fluxel ont également entamé hier une grève reconductible à l'appel de la CGT. Depuis ce matin, les dockers de Marseille se sont mis en grève illimitée. Les deux terminaux terminaux portuaires à l'arrêt de Fos, donc desservent les raffineries voisines de l'étang de Berre, mais aussi les oléoducs qui alimentent celles de Fézin dans le Rhône, de Crécy en Suisse et de Karlsruhe en Allemagne. Voilà pour le carburant. Sur la route, le mouvement des routiers semble de son côté en perte de vitesse, dû en partie aux concessions du gouvernement à la branche transport sur les heures supplémentaires et Force ouvrière qui tient son congrès annuel, Force ouvrière transport. Côté rail, la SNCF prévoit mercredi et jeudi un trafic perturbé et à la RATP, la CGT a appelé à une grève illimitée à partir du 2 juin.
Merci beaucoup Annabelle Grelier. En tout cas, le Premier ministre s'en est pris, on l'a noté frontalement à la CGT. Prendre ainsi en otage des consommateurs, notre économie, notre industrie continue les actions qui visent à faire retirer le texte. Ça n'est pas démocratique, disait-il ce matin. Pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, le Premier ministre joue un jeu dangereux en essayant d'opposer la CGT aux citoyens. Et puis le chef de file des députés socialistes dit frondeur, Christian Paul, estime que le pays est en train de s'enfermer dans un conflit durable et il appelle à un dialogue loyal sur ce projet de loi travail pour faire, dit-il, retomber la tension.
Sept prix Nobel français et un lauréat de la médaille Fields dénonçaient hier dans une tribune publiée dans Le Monde la décision du gouvernement de procéder à d'importantes annulations de crédits pour la recherche, décision qui s'apparente, selon eux, à un suicide scientifique et industriel.
Alors malgré ces coupes budgétaires, François Hollande jugeait ce matin sur notre antenne indispensable le travail de recherche. La présidente du Front National, Marine Le Pen, elle condamne le projet du gouvernement de procéder à ces coupes importantes à hauteur de 256 millions d'euros, dont 64 millions pour le CEA, 50 millions d'euros pour le CNRS. Comment seront réparties ces économies, Catherine Pétillon? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà évoquer des conséquences concrètes de ces restrictions?
Alors, l'essentiel des annulations de crédit concerne les dotations de 4 organismes de recherche. Vous en parliez, le CEA est mis à contribution à hauteur de 64 millions, 50 millions de moins pour le CNRS. Enfin, l'INRA et l'INRIA perdent 10 millions chacun. L'enseignement supérieur universitaire perdra lui aussi 50 millions de crédits. Alors, face à la vive réaction de la communauté scientifique, le ministère se veut lui rassurant. Dans un communiqué commun, Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon affirment que les annulations prévues n'auront, je cite, aucun impact sur l'activité des organismes de recherche. Comment ? Eh bien, en mobilisant les fonds de roulement et les trésoreries sans mettre en cause l'exécution des budgets prévus. Tour de passe-passe, estime en résumé bon nombre de chercheurs, car à force de puiser dans les réserves, eh bien, elles s'épuisent. Déjà l'an dernier, le CNRS avait été appelé à recourir à son fonds de roulement. C'est le cœur même des laboratoires qui est menacé, estime le chercheur Patrick Montfort, secrétaire général du Syndicat national des chercheurs scientifiques FSU. Il craint aussi des effets sur les recrutements en cours. Dans une lettre ouverte, le collectif Science en Marche appelle lui Manuel Valls et François Hollande à, je cite, « cesser de sacrifier le futur de notre pays sur l'autel du court terme ». Rappelons que la France consacre 2,25% de son PIB à la recherche, alors qu'un objectif européen des 3% aurait dû être atteint en 2010.
Catherine Pétillon, merci beaucoup. On salue l'invité de la séquence interview, Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
On va parler avec vous, bien sûr, du Proche-Orient et de cette visite de Manuel Valls. Mais un petit mot là-dessus. Suicide scientifique et industriel, disait hier les prix Nobel. Est-ce qu'on peut ajouter aussi, pas forcément suicide, mais en tout cas atteinte peut-être à une dimension géopolitique aussi?
Oui, effectivement. Ces dernières années, les pays, ou parmi les pays qui connaissent une montée en puissance, vous avez des États dont la démographie est à la fois faible et qui n'entretiennent pas de véritables richesses naturelles commercialisables. Je pense à la Suède, je pense à la Corée du Sud, je pense à Singapour, je pense à Israël pour le coup. Et ce sont des pays qui n'accordent pas 2,25, 2,50, 2,75, mais 5% en moyenne à la recherche et le développement. La Chine, bien évidemment, que je n'ai pas mentionné, que j'aurais dû mentionner. Donc c'est un booster géopolitique, c'est un propulseur de puissance, le high-tech, parce que vis-à-vis de vos alliés, vous devenez plus indépendant sur le plan stratégique, vous avez moins besoin de leur acheter des armements lourds par exemple, parce que vous les produisez vous-même, et puis surtout en civil, lorsque vous produisez des marchandises à haute valeur ajoutée, c'est très bon pour votre balance commerciale et c'est bon pour l'emploi.
Donc
c'est bon
pour erreur tout. Stratégique et politique.
Alors. Écoute, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne suis pas chargé du budget, je sais que depuis quelques années, sinon depuis quelques décennies, par rapport à nombre de nos voisins occidentaux, malheureusement, effectivement, nous sommes assez faibles en matière de recherche et développement.
Et bien justement, à retrouver sur franceculture.fr une comparaison du financement de la recherche en France avec ses voisins européens et le reste du monde en cartes et graphiques selon différents indicateurs, les dépenses en recherche et développement, évolution du financement public dans le temps, nombre de chercheurs et de chercheurs publics par pays, investissement français dans les programmes de recherche européens. C'est un dossier réalisé par Camille Renard. On passe à François Hollande et l'histoire, puisque le chef de l'État a été invité ce matin de la fabrique de l'histoire. Le chef de l'État a essayé de contextualiser son action politique. Frédéric Seyss, vous avez suivi pour nous cet entretien avec Emmanuel Laurentin.
Oui, dans cet entretien d'un peu moins d'une heure, on peut séparer trois niveaux de lecture. Le temps court, l'actualité. François Hollande n'a pas pu s'empêcher d'y revenir, d'ailleurs après une question sur mai 68. Le blocage des raffineries, ce matin, est fondé, dit-il, par la stratégie d'une minorité, a expliqué François Hollande. Il y a ensuite le moyen terme et la question centrale des mémoires. Comment être le président d'une France dont les mémoires historiques sont à ce point différentes, voire divisées? On l'a observé notamment autour du choix de la date du 19 mars pour commémorer la guerre d'Algérie. Un choix qui a fait polémique et que François Hollande ce matin a justifié.
Quand je dis les drames, c'est aussi bien ce qui s'est passé à travers la répression à l'époque, et puis aussi la torture et ce qu'a été une somme de violence à l'égard du peuple algérien qui était colonisé. Faut aller jusqu'au bout de cette reconnaissance. Mais il y a aussi des massacres qui ont eu lieu. Quand on parle du 19 mars, on sait que c'est la fin de la guerre d'Algérie, mais c'est aussi le début d'un certain nombre de massacres dont les pieds noirs ou d'autres, ou les harkis ont été victimes. Donc il faut parler de tout pour que nous puissions vivre ensemble à partir de cette reconnaissance.
Voilà, la reconnaissance pour tous en quelque sorte, mais pas la réparation. François Hollande refuse cette idée, notamment quant à la traite esclavagiste qui est demandée par plusieurs associations. Ce serait alors, dit-il, une mémoire à dimension pécuniaire. Et puis il y a enfin le temps long, le regard de l'action quotidienne, minutée, réactive face à l'histoire. Et là, le propos de François Hollande entre les lignes est le suivant. Si mon action semble brouillée aujourd'hui, eh bien l'histoire lui rendra justice.
Il y a l'impression que l'on donne de manière fugace, d'une manière volatile. Ça, c'est ce qui est, j'allais dire, dans l'écume. Et puis, à la profondeur, il y a ce qui va être, finalement, le sens même d'une action, la trace. Moi, c'est ce qui m'anime, m'habite presque. C'est qu'est-ce que j'aurais laissé comme trace? Qu'est-ce que un autre n'aurait pas pu faire et que j'ai entrepris? Nous faisons l'histoire. Nous ne la racontons pas. Je fais l'histoire. Mais il y a aussi des circonstances qui font qu'un homme politique décrié, Churchill, repoussé, peut devenir un héros.
Voilà, une phrase qui pourrait être étiquetée « Suivez mon regard ». S'il n'y a pas de popularité et donc pas de confiance, c'est donc que la cohérence se verra avec le recul. Alors peut-être y a-t-il un angle mort dans ce raisonnement présidentiel. C'est que la cohérence aide à la confiance et que la confiance permet l'action. Ajoutons à cela que l'argument du jugement futur a cela d'habile qu'il est par définition assez irréfutable dans le présent.
Voilà, il faudra effectivement attendre un peu pour voir comment c'était bien. Merci beaucoup Frédéric Seyss.
6 mois après les attentats de Paris, les proches des victimes sont reçus à partir d'aujourd'hui par les juges chargés de l'enquête. Au programme de cette rencontre prévue sur 3 après-midi, un compte-rendu de l'avancée de l'instruction, mais aussi un temps de questions-réponses.
Oui, c'est une rencontre donc qui va s'étendre sur 3 jours. Aujourd'hui, ce sont d'abord les familles des victimes des terrasses et du Stade de France qui seront reçues. Demain et après-demain, ce sont les familles des victimes du Bataclan, Hélène Terzian.
Oui, c'est la première fois que les victimes et les familles de victimes rencontrent les 6 juges d'instruction en charge de l'enquête. Cette rencontre est organisée à l'école militaire dans un amphithéâtre aménagé pour le parce que ce sont plus de 1000 personnes qui se sont constituées partie civile. 6 mois après les attentats, leur objectif est d'être considérées dans l'enquête et tout simplement informées. Lors de ces échanges, les familles pourront alors poser sans intermédiaire leurs questions aux magistrats. Il faut dire que leurs interrogations sont nombreuses. Elles portent d'abord sur l'avancement de l'instruction, quelles sont les circonstances précises de l'attentat, mais aussi qu'en est-il de la coopération avec la Belgique. Bien sûr, au cœur des tensions également, Salah Abdeslam, détenu dans des conditions très particulières. Les familles souhaitent savoir quelle est désormais la stratégie des enquêteurs, le seul survivant des commandos du 13 novembre ayant choisi de garder le silence. Enfin, la défiance des familles vis-à-vis de l'État est grandissante. Elles ne manqueront pas d'aborder son éventuelle responsabilité sur la question de possibles failles dans les services de renseignement en amont des attaques. L'État, qui est aussi interpellé sur la question du fonds de garantie des victimes, jugé inadapté par les familles et leurs avocats, qui dénonce aussi les complexités administratives. Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, assure d'ailleurs vouloir simplifier les procédures. En tout cas, une des revendications des familles a été entendue, c'est l'ajout des rapports d'autopsie à l'enquête.
Hélène Terzian, merci.
France Culture, 12h44, suite du journal, avec les suites de l'élection présidentielle autrichienne et de la victoire très serrée du candidat écologiste Alexander Van der Bellen face au candidat d'extrême droite Norbert Hofer.
Oui, il y a 2 interprétations en fait données ce matin à cet événement. Ceux qui disent que ce résultat, c'est bien la preuve de l'existence du fameux plafond de verre qui empêche les populistes de franchir la barre des 50%. Et puis il y a ceux qui qui disent que l'on n'est finalement plus qu'à 30 000 voix maintenant en Autriche de l'éclatement du dit plafond. Stéphane Robert, quels sont les arguments des uns et des autres ?
Eh bien, d'un côté, ça s'est joué à 30 000 voix, c'est-à-dire à rien ou presque rien. Et ce sont les votes par correspondance qui ont fait la différence. En tout dernier recours, puisqu'à l'issue du dépouillement des urnes, c'est le candidat du FPE, Norbert Hofer, qui était en tête. Et donc certains considèrent, le Front National notamment, que c'est passé tout près, que le plafond de verre n'est plus qu'un plafond de papier, et que la prochaine fois, ni une ni deux, c'est la droite radicale et populiste qui va l'emporter. Le message étant, vous allez voir, c'est ce qui va se passer en France en 2017. A contrario, si l'on s'intéresse à ce scrutin de manière un peu plus fine, on s'aperçoit déjà que le candidat écologiste Van der Bellen a gagné 30 points entre les deux tours. C'est donc qu'il y a eu une véritable mobilisation contre le candidat d'extrême droite, ce qu'on appelle en France le Front Républicain. Il a fonctionné à plein ce dimanche en Autriche. Et si l'on regarde plus en détail encore, on peut voir que le candidat écologiste l'a emporté dans quasiment toutes les grandes villes, dans l'électorat féminin et chez les personnes les plus diplômées, alors qu'à l'inverse, dans les campagnes, chez les hommes et chez les moins diplômés, c'est la droite radicale qui s'est imposée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une vraie césure, une vraie fracture entre d'un côté un électorat urbain, qui n'est pas ou peu touché par la crise, et donc en connexion avec une économie de plus en plus mondialisée, et puis un électorat beaucoup plus rural, qui se sent décroché ou en voie d'être décroché. Et c'est un phénomène qu'on peut constater de façon à peu près homogène un peu partout en Europe, que ce soit récemment en France avec les régionales, en Slovaquie ou en Pologne. On a donc en Europe des communautés nationales en plein questionnement, tiraillées entre d'un côté l'appropriation et l'adaptation à la mondialisation, et de l'autre côté, en réponse à l'inquiétude que suscite un monde qui change, la tentation d'un retour vers les structures du passé. Et la question du plafond de verre s'inscrit pleinement dans cette dichotomie de plus en plus prégnante.
Stéphane Robert, bonjour Didier Héribon.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de la dernière partie de la Grande Table pour votre livre « Principe d'une pensée critique ». Mais là-dessus, est-ce que vous avez, vous, choisi votre camp ? Enfin, est-ce que vous pensez plutôt que ce plafond de verre résiste
bien ? Ah oui, sur le plafond de verre.
Oui, oui, non, je ne vais pas demander entre les écolos et l'extrême droite.
Imaginez que j'ai choisi
mon camp. Non, sur l'analyse de la situation, est-ce que ce plafond de verre existe ou est-ce qu'il a vocation à éclater un jour ou l'autre ? Et
ça,
également
je
sur la situation
pas,
en France.
Je ne sais pas, parce que je ne suis pas prophète. J'espère qu'il y a un plafond de verre. Comme tout le monde, j'espère qu'il y a un plafond de verre. On ne peut que l'espérer. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Simplement, on peut essayer, en effet, comme ce qu'on vient d'entendre le disait très bien, c'est qu'il y a une coupure entre le vote pour l'extrême droite en Autriche. Bon, l'histoire de l'Autriche nationale est très particulière. On ne peut pas faire des comparaisons rapides. Mais l'histoire de le vote pour l'extrême droite est fortement corrélé avec le taux de diplôme, ou plutôt, moins il y a les gens de diplôme, plus le taux de diplôme est bas, plus les électeurs ont tendance à voter pour le Front National. En France, pour l'extrême droite en Autriche, en Angleterre, etc. Et donc, on peut dire que ce sont les classes populaires précarisées qui sont rejetées vers le vote de l'extrême droite. Et on peut ici, par rapport à la séquence que nous entendions de François Hollande parlant de l'histoire et de son bilan, etc., il restera dans l'histoire comme celui qui a fait monter le Front National à presque 40%. Et quand on voit la politique actuelle de destruction du code du travail, de la protection sociale, et que la réponse, c'est les CRS, les gaz lacrymogènes et les canons, les camions à eau, on peut se dire que le Front National a de beaux jours devant lui, étant donné que les partis de gauche ne se préoccupent plus de cet électorat, mais font la politique néolibérale qu'on voit à l'œuvre en ce moment.
Didier Héribon, merci. On vous retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de la Grande Table. Selon un responsable des services égyptiens de médecine légale, les premiers examens réalisés sur les restes humains retrouvés après le crash du vol 804 d'Égyptair la semaine dernière accréditent l'hypothèse d'une explosion à bord de l'avion. Les responsables égyptiens disent qu'ils n'ont pas reçu de signal de détresse avant sa disparition. Ils n'écartent toujours pour l'instant aucune hypothèse pour expliquer la catastrophe.
La visite de Manuel Valls en Israël et en Palestine, le Premier ministre s'est heurté hier à Jérusalem à l'opposition israélienne au projet de conférence internationale pour relancer l'effort de paix avec les Palestiniens.
Benjamin Netanyahou proposait à la place des discussions bilatérales à Paris. Ce matin, Manuel Valls a maintenu que cette conférence internationale sur le Proche-Orient aura bel et bien lieu. Ce sera le 3 juin à Paris. Le Premier ministre rencontrait ce matin à Ramallah son homologue palestinien, Étienne Molin.
Et on est loin de la rencontre sommet à Ramallah. L'homme fort de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est en déplacement. C'est donc le geste qui est important et la réponse apportée à la France. à la proposition de Benjamin Netanyahou, puisque hier le Premier ministre israélien a rejeté le cadre de la conférence internationale, mais il a habilement proposé à la France de devenir le pays hôte d'une autre rencontre, un tête-à-tête avec le chef de l'autorité palestinienne sans préalable et sans diktat international. Benjamin Netanyahou n'est pas naïf, il sait que ce processus de discussion directe est bloqué depuis 2 ans et que les Palestiniens refusent ce cadre pour éviter de se trouver en situation d'infériorité. Aujourd'hui, le Premier ministre palestinien a refusé sans surprise cette invitation qu'il qualifie de dilatoire. Et le Premier ministre français a diplomatiquement pris la même position sans toutefois claquer fermement la porte. Manuel Valls se dit favorable à tout ce qui peut favoriser un dialogue direct, qu'il qualifie de sincère et constructif. Il constate le blocage, il constate la dégradation sur le terrain. La première étape reste donc l'organisation de la conférence à Paris le 3 juin. Comme prévu, au passage, le Premier ministre condamne la colonisation dont la poursuite, dit-il, met gravement en danger la solution à 2 États.
Retour vers vous, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de Géopolitique du sionisme chez Armand Collin. Vous avez donc suivi cette étape israélienne, en tout cas, de Manuel Valls. Est-ce que l'initiative française a un avenir ou peut-on dire qu'elle est déjà mort-née ?
Alors, je dirais d'abord que c'est une bonne idée au regard du retrait relatif américain. Après tout, depuis au moins Camp David en 77-78, les Américains ont toujours été omnipotents et omniprésents dans la région. Là, ils semblent se retirer encore une fois relativement, et puis de façon très conjoncturelle, de toute façon, pendant une année électorale présidentielle, les Américains ne lanceront pas d'initiative. Alors pourquoi pas la France ? C'est d'autant plus vrai que depuis quelques années, la France revient en force. C'est vrai au Sahel, hein, avec le Mali, c'est vrai en Syrie, depuis au moins la crise syrienne des gaz neurotoxiques de 2013, c'est vrai en Irak, c'est vrai en Égypte, etc.
Il y a aussi l'idée qui préside à cette conférence, c'est-à-dire on commence par réunir ceux qui ne sont pas directement concernés. Est-ce que ça, c'est une bonne idée aussi ?
Alors, oui, à condition qu'il y ait un deuxième volet. C'est-à-dire que les Israéliens ont toujours peur de se voir ou de se faire imposer des choses, et c'est la raison pour laquelle Netanyahou rejette catégoriquement cette initiative. La deuxième raison pour laquelle il la rejette, c'est qu'il n'en veut idéologiquement pas. On a affaire à un gouvernement très nationaliste, et par conséquent, il est clair que, comme d'ailleurs le disait très bien votre correspondant, les Israéliens ayant un rapport de force très favorable face aux Palestiniens, ils préfèrent plutôt effectivement se retrouver
donc,
en tête à tête, que ce soit à Paris ou ailleurs.
Avenir de cette initiative ?
Avenir, je pense très sincèrement qu'elle n'aboutira pas à autre chose que de remettre sur le devant de la scène un dossier qui a été largement oublié ces dernières années. Pas oublié pour des raisons idéologiques ou parce que les diplomates occidentaux n'aiment pas les Palestiniens, c'est absolument pas le cas, mais c'est parce que ce qui se passe de grave ou de très grave aujourd'hui dans la région et depuis au moins 5 ans, depuis le début du printemps arabe, ça ne concerne pas directement le dossier israélo-palestinien.
Donc en fait, c'est le contexte général autour dans cette région, évidemment, qui modifie ce qu'on appelait avant la centralité de ce conflit israélo-palestinien, selon vous ?
Oui, et surtout l'affaire syrienne. Il faut bien comprendre qu'en 5 ans de répression et de guerre civile en Syrie, Assad et quelques-uns de ses opposants ont réussi l'exploit insigne de faire trois fois plus de morts que durant 70 ans de guerres israélo-arabes, tout conflit confondu. Donc la crise syrienne, qui n'a aucun rapport avec le dossier israélo-palestinien, est évidemment, et je ne vais pas vous l'apprendre, depuis 4 ans, 5 ans, sur le devant de la scène diplomatique et militaire mondiale, avec le retour de la Russie, avec les nouvelles stratégies américaines, la Turquie vis-à-vis des Kurdes. Donc on est là sur une cristallisation qui effectivement a fait de l'ombre, considérablement d'ailleurs, au dossier israélo-palestinien.
Un mot encore sur ces négociations pour faire entrer le parti nationaliste d'Avigdor Lieberman dans la coalition. Alors elles se poursuivent. Selon le Premier ministre, elles sont dans une impasse, annonçait ce matin l'intéressé, peut-être qu'il veut faire monter encore les enchères. Monsieur Netanyahou continue de se dire confiant dans la conclusion possible d'un accord. Est-ce que Lieberman, à la défense, ça change quelque chose ?
Alors, en termes de posture, ça change. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est ultra-nationaliste, et par conséquent, ça renvoie encore plus la coalition bâtie il y a un an de cela par Netanyahou vers le rejet de toute initiative avec les Palestiniens. Cela dit, sur le fond de la gestion militaire en Israël, non, ça ne change pas grand-chose, car au regard du mode de scrutin à la proportionnelle intégrale, vous avez très souvent des gens qui se retrouvent à des postes ministériels sans avoir la moindre compétence. Vous me direz que c'est vrai aussi ailleurs, mais enfin en Israël, c'est quand même particulièrement le cas. Et dans ce cas-là, ce sont évidemment les généraux et ou les hauts fonctionnaires qui continuent à faire tourner, comme dirait l'autre, la boutique, et c'est évidemment pas Lieberman qui va déclencher, enfin qui va décider de la paix ou de la guerre, heureusement
oui, d'ailleurs. Cela dit, quand même, gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, peut-être que c'est à ces moments-là que les choses se retournent, quelque chose est possible, vous y croyez, du côté israélien, en initiative qui serait prise?
C'est-à-dire, alors pas en haut lieu, mais l'opinion publique, elle, bouge, elle réagit, y compris au sein de l'armée. Regardez à quel point l'armée est défavorable à ce que Lieberman tienne en quelque sorte le portefeuille de la défense. Au sein de l'opinion publique israélienne, où la droite est quand même majoritaire, on n'est quand même pas très favorable à ce que Lieberman intègre le gouvernement. Mais si vous voulez, la question, il faudra la poser à la gauche israélienne, qui n'a plus rien à dire de sérieux et d'intéressant depuis des années. C'est la raison pour laquelle le Likoud est au pouvoir en Israël depuis 77, sans discontinuer, sauf pendant 4 ans, plus 1 an, plus 1 an. Vous faites le calcul sur l'ensemble, c'est assez faible.
Frédéric Ancel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Géopolitique du sionisme, votre dernier livre, 3e édition, chez Armand Collin. Nuageux au nord, variable au sud, de 13 à 26 degrés pour les températures. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Tarache Laguelle.